Mais c'est quoi ce cirque ?
Mais c'est le festival.
Quel festival ?
Le Festival International du Premier Film d'Annonay.
Le Festival International du Premier Film d'Annonay ?
Mais oui !
Allez, tous en scène !
On y va !
C'est parti !
En piste ! Alors bonjour, bienvenue sur Radio d'ici. On est mardi 6 février, on est en fin d'après-midi et on est au Festival International du Premier Film d'Annonay. Cet après-midi avec Jules, qui est stagiaire chez nos colocs de Téla. Bonjour Jules. Donc avec Jules, on est allé assister à la masterclass sur le cinéma d'animation qui se tenait au théâtre d'Annonay. Cette masterclass, elle était ouverte à tous et toutes. Il y avait énormément de collégiens et de lycéens. Sur scène, autour de Gaël Labanti, le directeur artistique du festival, il y avait Sylvain Chaumet, qui est notamment connu pour avoir réalisé en 2002 les Triplettes de Belleville. Il y avait aussi François Ligné, qui est directeur artistique dans la maison de production au studio d'animation basé à Valence, qui s'appelle Folle Image, et qui a notamment produit la série Tu mourras moins bête, qui passe sur Arte régulièrement. Et il y avait Laurent Vallière, qui est journaliste à Radio France, et qui a publié en 2017 un ouvrage cinéma d'animation, La French Touch. Laurent Vallière, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio d'ici.
Merci.
Alors, on est très heureux de vous accueillir. Avec Jules, on était donc à cette masterclass, et on va essayer de revenir un peu sur les grands moments de la discussion qui s'est tenue donc pendant plus d'une heure, une heure et demie. Alors, dans votre ouvrage cinéma d'animation, La French Touch, vous parlez des histoires de l'animation. Mmh. Il en a été question, et des techniques d'animation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette French Touch ?
Ah, la French Touch. Ben oui, on connaît la French Touch en électronique, en musique électro. On connaît la French Touch. D'ailleurs, c'est un peu une tarte à la crème, parce que j'ai l'impression qu'on utilise ce mot dans tous les domaines. Mais c'est vrai que dans les années 2000, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait, il y avait des films français qui marchaient au cinéma, avec des styles un peu différents, qui ressemblaient pas vraiment à du Disney. Il n'y avait pas vraiment des personnages, des princesses, des choses comme ça. Ça ressemblait pas vraiment aux films de japonais avec des personnages aux grands yeux, etc. C'était quelque chose de différent. Exemple type Kirikou. Il a des grands yeux, mais pour le reste, il virevolte pas. Il est assez minimaliste. On pourrait presque dire que c'est la ligne claire, comme on dit que Tintin, c'est la ligne claire dans la bande dessinée. Et pourtant, il a rencontré un succès énorme. Faut se rappeler qu'il est sorti en décembre 1998 ils avaient tellement pas d'argent, les producteurs, qu'ils avaient pas d'argent pour faire une bande-annonce. On peut même pas imaginer ce truc-là. Et qu'il est sorti en même temps que Mulan, le dessin animé de Walt Disney, qui donc grosse production, et en même temps que Le Prince d'Égypte, qui était le premier grand dessin animé des studios DreamWorks, qui avait été fondé par Steven Spielberg à Hollywood. Bref, c'était un peu David contre Goliath, c'était un peu Astérix contre les Romains, mmh. Surtout qu'il est un peu de la taille d'Astérix par rapport aux Romains. Et pourtant, par une sorte de bouche à oreille étonnant, que a stupéfait tout le monde, le film a attiré un nombre incroyable de spectateurs, plus d'un million, et il a en fait été le point de départ d'une certaine industrie du dessin animé en France. Tout d'un coup, les producteurs de films, qui regardaient un peu les dessins animés, un peu de haut, en disant « ça ne nous intéresse pas, c'est pour les enfants, nous on fait des films sérieux », tout d'un coup, les producteurs de films avec des acteurs, comme on dit, se disaient « ah, bah finalement, on peut gagner de l'argent », c'est quand même ça le plus important, avec des dessins animés. Et premier exemple, instantanément, le même producteur que Kirikou a décidé de produire un autre dessin animé très audacieux dans un style alors complètement différent, qui est donc celui de Sylvain Chaumet, qui était là tout à l'heure, Les Triplettes de Belleville. Mmh. Un film, alors c'est pareil, il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de super-héros qui volent, il n'y a pas de château dans le ciel, il n'y a pas de Totoro. Mmh. Et pourtant, c'est un film très caricatural, très... Tout à l'heure, il disait « Vive Charlie Hebdo, Sylvain Chaumet », mais c'est vrai, il est très dans le style, on se moque un peu de tout ce qui bouge. Et dans Les Triplettes de Belleville, il se moque de l'Amérique, on voit des gros personnages, tous ces personnages sont un peu stéréotypés et caricaturaux. Et ce film a connu un succès incroyable jusqu'en Amérique, parce qu'il était muet. et est devenu presque un modèle pour certains réalisateurs américains. Et donc, ben, tout d'un coup, on s'est dit, ben, il y a une French Touch dans le dessin animé. On prend Kirikou, on prend les triplettes de Belleville, qui ont des univers complètement différents. On s'est rendu compte qu'il y avait un vivier en France de bandes dessinées étonnants, Tintin, Astérix, Titeuf, etc., etc., de romans graphiques, hein, Marjane Satrapi, Le chat du rabbin, patati patata. Et donc, ce mot un peu French Touch est né ainsi, tout simplement, et est devenu presque un marronnier d'ailleurs, parce que si vous lisez un marronnier journalistique, c'est une sorte de phrase valise qui ne veut pas dire grand-chose.
Mais qui revient tout le temps.
Qui revient tout le temps. Mais quand même, voilà, on peut dire que la French Touch dans l'animation, c'est une sorte de... J'aime pas dire le mot audace parce que c'est comme si les Japonais n'étaient pas audacieux et les Américains n'étaient pas audacieux, mais disons que les Japonais certainement pas, mais les Américains, ils ont parfois des formules toutes faites. Et quand vous regardez un film, on a l'impression qu'il n'y a pas toujours de grandes surprises, c'est toujours le même happy end. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'audace dans ces films qui sont souvent des prototypes, quoi.
Voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Chaque film dans cet univers francophone, hein, puisque. Il est aussi inspiré de la BD belge, hein, vous l'avez évoqué aussi. Chaque film est un prototype et il n'y a rien d'industrialisé, en tout cas.
C'est la force et la faiblesse.
Ouais.
Parce qu'à chaque fois, voilà, Sylvain Chomet, il n'a pas réalisé autant de longs-métrages qu'on aimerait qu'il en réalise. Et parce que chaque nouvelle aventure est compliquée. On n'a pas d'industrie. On a une industrie, mais... C'est vrai qu'à chaque fois, Michel Oslo, il a jamais voulu refaire un Kirikou 2 parce que lui, il a fait des Kirikou, des suites de Kirikou, mais c'était en fait des suites d'histoires complètes. Moi, personnellement, je suis frustré. J'aimerais bien qu'il me raconte un deuxième Kirikou. Mais le truc, c'est qu'il a tué son Kirikou à la fin du premier. Je sais pas si vous vous rappelez de la fin, quand
bien
même.
Sûr.
Il a son petit personnage pendant 90% du temps. Et puis à la fin, Kirikou grandit.
Oui.
Et qu'est-ce que vous voulez faire avec un personnage grand? Donc, il s'est tiré une balle dans le pied. Mais ça, c'est typique français, quoi. Il réfléchit pas forcément au fait qu'il veut après en faire des petits Mickey, quoi. Il fait son film. Mais, donc du coup, c'est l'avantage et l'inconvénient.
Cette French Touch, c'est à la fois, une manière, un style inspiré de certaines formes de dessin, inspiré d'une tradition liée à la bande dessinée qui est fortement développée en France, en Europe. Mmh. Et puis, c'est aussi des modes de production, des techniques, une manière de faire du cinéma qui se démarque. Donc, ce style et ces manières de faire qui se démarquent des États-Unis et du Japon, qui sont donc les deux premiers producteurs de cinéma d'animation.
Je ne sais pas si dans la façon de le faire, on se démarque tant que ça, hein, pour le coup. Mais dans le style, oui. Dans la façon de faire, franchement, si vous allez voir... aujourd'hui, on fabrique des dessins animés un peu... De la même façon,
oui,
partout. Hein.
Le rapport à la commercialisation et à cette machine commerciale.
On est moins doué, on va dire. Et puis surtout, dès qu'il y a un producteur qui essaye de faire un peu des trucs un peu à l'américaine, il y a toute la critique qui lui dit bouille, il se vend.
Alors, je vais donner la parole à Jules. Donc, je te présente. Donc, t'es notre coloc à Mediapop. On partage le studio entre Radio DC et Tella. Et Tella, c'est donc une équipe de passionnés de vidéo qui font leurs films, qui accompagnent les bénévoles qui veulent faire leurs films. Films d'image, mais films aussi d'animation. Et toi, Jules, t'es passionné de cinéma d'animation.
Donc, oui. Donc, on a vu un extrait de Tu mourras moins bête, qui est une série inspirée de la BD de Marion Montaigne. Et donc cette série passe sur Arte et est produite au studio Folimage. Et donc moi, la question que j'ai, c'est combien de personnes et combien de temps faut-il pour faire une saison comme ça de...
Une série ?
Oui, voilà, une série.
Alors les questions sur les séries, très précisément. En fait, c'est marrant parce que évidemment... Évidemment, la production d'un long métrage et la production d'une série, c'est pas du tout la même chose. Tout à l'heure, on parlait de comment on fait pour produire un long métrage. Voilà, il y a tout un cheminement avant d'entrer en production parce qu'il faut créer l'univers, créer l'histoire, créer l'animatique, créer le storyboard qui est une sorte de bande dessinée qui adapte visuellement le scénario. Il faut en même temps, parallèlement, créer une sorte de boîte à outils où on a les personnages tout faits pour que les dizaines d'animateurs qui l'utilisent puissent avoir exactement le même gabarit pour pas qu'on ait un capitaine ad hoc avec trois dents dans un dessin et puis deux dents. Enfin, bon, j'exagère, mais comme c'est pas toujours le même animateur. Faut que ça soit raccord et il faut travailler sur les décors. Donc, généralement, pour un long métrage, c'est pas la question que tu m'as posée, mais j'y arrive. Pour un long métrage, il faut, il y a souvent 3 ans de préparation, en fait. Et la fabrication elle-même, l'animation elle-même prend 1 an. En gros. En fait, c'est tout bête, mais t'as 90 minutes d'animation. Et après, soit t'es riche, soit t'es pas riche. Donc, soit tu prends 100 animateurs et tu lui fais faire tout en... En fait, c'est même pas soit t'es riche, soit t'es pas riche. C'est en combien de temps il faut que tu rentres ton projet. S'il faut que tu le rentres dans 6 mois, et ben, tu vas diviser ton travail et tu sais qu'il te faut pendant 6 mois 50 animateurs et ils vont travailler. Mais si t'es moins pressé, t'en prends 10 et puis tu leur fais travailler pendant un an. Pour les séries, c'est autre chose parce que les séries, c'est un peu du travail à la chaîne, j'ose dire, même si c'est pas très bien dit. Parce qu'en fait, il y a toujours ce travail de préparation. On connaît, voilà, c'est devenu maintenant courant, le mot de bible. Quand on crée une série, il faut qu'on crée une bible. C'est-à-dire qu'au départ, toi, t'as un projet, t'as une idée, tu vas voir un producteur, ton projet il tient sur un paragraphe. Tiens, j'ai envie d'un chat qui court après une souris et puis il l'attrape jamais et elle le torture, patati patata.
C'est une idée originale.
Bien sûr. et à partir de là, le producteur te dit, ah, c'est génial comme idée, vraiment, vas-y, travaille dessus, je te donne un peu d'argent, tu développes l'idée. Et puis moi, je vais demander, alors, lui ou quelqu'un d'autre, à des gens de développer le personnage, ce qu'on appelle le character designer. Puis j'ai demandé à quelqu'un de développer la bible graphique, les décors. C'est à peu près comme pour le long métrage, sauf que c'est à l'échelle un peu plus industrielle. Mais donc, il faut déjà élaborer tout ça. Et après tu vas avoir un homme qui s'appelle le showrunner, qu'on trouve aussi dans les séries américaines d'ailleurs, qui est généralement plutôt quelqu'un pour l'animation, je sais pas, parce que dans les showrunners de séries américaines, genre Homeland ou House of Cards, c'est souvent des scénaristes, parce que c'est le plus important dans un showrunner, c'est le scénario. Mais dans l'animation, Marc Dupont-Aviz, dans l'interview que j'ai faite de lui dans le bouquin, m'explique que l'animation, c'est un matériau très compliqué, parce qu'il faut que le scénariste sache visualiser exactement ce qu'il peut faire en dessin animé. Généralement, il demande plutôt quelqu'un qui sait réaliser d'être le showrunner, parce qu'il faut avoir une culture graphique.
Marc Dupont-Aviz, c'est lui qui a fait Lucky Luke, c'est ça ?
C'est lui qui a fait le film Lucky Luke, c'est lui qui a fait Oggy et les cafards. Ouais. Voilà, il a fait beaucoup de séries. C'est un des plus gros producteurs de séries en France, en fait. Et en fait, il va avoir ce showrunner, et ce showrunner, chaque semaine, il va mettre en route un nouveau épisode. Donc... il a une palette de... Une fois que la Bible est faite, une fois que les décors en gros sont faits, que l'univers graphique est créé, en fait, chaque nouvel épisode va impliquer des choses. C'est-à-dire qu'un nouvel épisode, il va impliquer peut-être des nouveaux personnages secondaires qu'il faut dessiner, des nouveaux décors qu'il faut dessiner. Donc en fait, c'est beaucoup plus industriel dans la mesure où néanmoins, il faut aller vite. Je n'aurais pas la durée exacte, combien de temps il faut entre le moment où... il a un scénariste qui lui pitch une idée et le moment où le scénario atterrit. Chez les Simpsons, par exemple, j'exagère, mais il faut presque une semaine, simplement. Ou dans South Park, en fait, c'est très minimaliste. Le plus important, objectivement, l'animation dans South Park et les Simpsons, c'est super simple quand même. Il n'y a pas des effets de travelling, machin, truc. Donc, en gros, c'est pour ça qu'ils arrivaient à la fin d'un épisode à célébrer l'élection d'Obama ou de parler d'événements tragiques dans un épisode qui était diffusé 3 jours plus tard.
Ouais, c'est quasi du direct.
Bon, pour des séries un peu plus sophistiquées comme Oggy et les cafards qui demandent un travail, par exemple, sur le son. Tu sais, Oggy et les cafards, par exemple, il n'y a pas de dialogue. Donc, quand même, il faut que...
Énormément de bruitage.
Il faut, il faut peut-être un peu plus de temps, mais je crois que, je vais dire une bêtise en termes de timing, mais voilà, c'est pas la même mécanique, mais en fait, une fois que le principe, c'est quelqu'un fait un pitch au showrunner d'une idée, il lui dit « Ok, maintenant tu me fais le storyboard. » Une fois que le storyboard est validé, on fait travailler toutes les équipes qui ont besoin de créer les différents matériaux qu'on a besoin. Après, on va à l'animation, on enregistre les voix, et voilà.
Alors, peut-être pour rebondir sur cette idée-là, vous avez cité des films d'animation ou des séries d'animation qui sont inspirées de bandes dessinées. Est-ce que, donc, il y a des créations originales de films d'animation, Kirikou, Les Triplettes de Belleville, et puis il y a des adaptations, Tu mourras moins bête, c'en est une, Lucky Luke, c'en était une, Les nouvelles aventures de Lucky Luke, il y en a plein. C'est une différence qui fait sens, les adaptations de bandes dessinées et les créations originales dans le monde du cinéma d'animation français?
Ça veut dire quoi ? Une différence qui fait sens ?
Est-ce que c'est deux choses très différentes, le fait d'adapter des bandes dessinées ou de faire des créations originales, ou est-ce que c'est pas une différence
Moi, ce que je constate, c'est que, vous savez, le dessin animé, c'est une industrie qui coûte cher. Hein. Donc, c'est financé par qui ? Surtout par la télé.
Oui.
Les films, par contre, ont la chance de pouvoir exister Peut-être moins avec la télé. Bon, ils ont toujours besoin de la télé, mais voilà, il y a un soutien très actif des pouvoirs publics au cinéma. Ce que je constate, sans vouloir généraliser, c'est que les chaînes de télé, elles ont besoin de marques. Donc les adaptations de bande dessinée, c'est pour la télé. Et les pouvoirs publics ont moins besoin de marques parce qu'ils sont un peu plus audacieux. Donc Kirikou, Les Triplettes, Zarafa, tout ça n'est pas adapté de bande dessinée. Même Ernest et Célestine, c'est adapté d'un livre d'illustration jeunesse. Alors certes, c'était très connu, mais c'est pas aussi connu que Titeuf, quoi. Et par contre, les chaînes de télé, elles ont plutôt envie de produire des séries sur lesquelles elles peuvent dire capitaliser sur le nom. Donc c'est ça que je vois comme différence. Après, c'est pas le même travail, parce qu'effectivement, dans le bouquin, j'interview une fille qui s'appelle Valérie Adida, qui est formidable, qu'on appelle character designer. Character designer, c'est la personne qui crée les personnages d'un dessin animé. C'est pas forcément le réalisateur. On lui donne un script et on lui dit elle raconte l'histoire d'une série qui se déroule à Londres au 19e siècle. Il faut qu'elle invente tous les personnages. Évidemment, c'est pas la même. Et son travail, c'est quoi? C'est non seulement c'est super intéressant comme travail, mais c'est hyper cadré. Mais il faut qu'elle crée d'abord les personnages et puis après, il faut qu'elle montre tous les profils qu'il a, toutes les expressions qu'il a,
toute la boîte à outils,
toute la boîte à outils, même les ombres qu'il a. Ah ouais. Alors évidemment, c'est pas pareil quand vous faites ça sur un personnage qui existe déjà. Et elle prend l'exemple de Tintin, elle a travaillé sur Tintin, la série, parce que le problème d'adapter une bande dessinée en dessin animé, c'est qu'il faut rendre, animable le personnage. Vous voyez, elle donne l'exemple de Tintin, mais on peut prendre l'exemple de Mickey. Mickey, c'est Benjamin Renner qui me dit ça aussi. En fait, on voit toujours ses deux oreilles. Quel que soit le profil, on voit toujours ses deux oreilles, ce qui est faux.
Ouais.
Et donc, le travail du character designer, c'est comment on rend ça en dessin animé. Et qu'est-ce qu'on voit de l'oreille de Tintin lorsqu'il tourne la tête. Donc, elle explique ce travail-là. Donc, c'est autre chose. Et puis aussi, quel Tintin je prends? Est-ce que je prends le Tintin du début? Est-ce que je prends le Tintin des 7 boules de cristal? Parce qu'il avait vachement évolué. Hergé, il était tout seul avec sa table à dessin. Et puis, généralement, quand même, Tintin n'évoluait pas de la case 1 à la dernière page. Bon, il a évolué au cours des différents albums. Mais là, vous avez peut-être 20 animateurs qui vont travailler sur le même Tintin. Il faut qu'il soit hyper cadré. Il faut des gabarits. Donc c'est une différence qui fait sens, le fait que je pense que il y a plus de séries qui sont des adaptations et il y a plus de bandes dessinées et des films qui me semblent sont plus des prototypes.
Ouais. Jules.
Moi quand je fais une animation, donc juste pour certaines scènes ou pour je commence par un décor et après j'ajoute des personnages et des animations, enfin tout ce qui vient, ouais. Et en fonction de ce que je vois, je rajoute ou j'enlève des images comme ça vient, en fait. Et la question que j'avais, c'est que du coup, oui, je faisais ça de manière empirique. Et vous avez appelé ça donc le rythme de l'image. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce travail de rythme?
Alors, je vais vous dire un secret qu'il faut dire à personne. Je ne sais pas dessiner. Et je ne sais pas faire de dessin animé. Alors là, pour le coup, c'est une réponse, j'aurais pas trop. Il y a des écoles d'animation qui, justement, apprennent ça. C'est ce que disait Sylvain Chaumet tout à l'heure. Dans les écoles d'animation, vous apprenez comment rythmer un storyboard, comment rythmer un film. Je pourrais pas te dire comme ça concrètement comment faire. Il y a forcément des façons de faire.
Tout à l'heure.
Mais l'apprentissage empirique est formidable, parce que de toute façon, tu le testes toi-même et tu vois tout de suite. Mais effectivement, c'est un peu pour ça d'ailleurs que les écoles d'animation en France ont plutôt bonne presse. Parce qu'en fait, dans les écoles d'animation, t'as des professionnels qui travaillent sur des grosses séries ou des gros films qui viennent t'apprendre, te donner les clés en main, comment on fait. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose d'important. Mais j'ai pas répondu à ta question, du coup, parce que ta question, c'était quoi?
C'était par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le nombre d'images par seconde, en fait.
C'est ça le nombre d'images par seconde, c'est ça que tu me demandais?
Quand je fais une animation, j'enlève ou je rajoute des images en fonction de comment je vois l'animation. Et donc du coup, tout à l'heure, vous avez appelé ça le rythme de l'image. Et du coup, c'était ça. Comment est-ce qu'on fait en fait concrètement pour arriver à 24 images par seconde,
Est-ce qu'on a, en fait, on était interpellés pendant le débat, donc c'était effectivement peut-être davantage Sylvain Chomet ou François Lignet qui en parlaient, mais du fait que c'est pas parce qu'il y a 24 images par seconde qu'il y a 24 dessins par seconde, et que donc la manière dont on va vouloir rythmer l'image, en tout cas c'est les termes qui ont été employés, font que concrètement, on fait pas forcément 24 dessins comme pour remplir les 24 images d'une seconde, et que peut-être des fois il y en a, comme tu disais, que 8, ou des fois il y en a beaucoup plus. Voilà, c'était ça.
L'exemple le plus frappant, c'est un film qui s'appelle Ghost in the Shell, un film japonais. C'est pas un exemple de moi, c'est un exemple que m'a donné Benjamin Renner. C'est un film. En fait, c'est ça, c'est la magie du cinéma. C'est quand est-ce qu'on fait des plans larges? Des plans assez immobiles. Bon, ça, les Japonais sont très forts. Les Japonais sont très forts pour faire des plans de contemplation, par exemple, qui durent. Alors, dans ces cas-là, ils utilisent ce qu'ils appellent un. Il faut que la pose clé soit belle. C'est-à-dire que tu peux rester pendant une seconde sur une pose, si jamais ton personnage exprime parfaitement ce que tu veux et est beau. Et il me donnait l'exemple, Benjamin, d'une scène dans Ghost in the Shell, donc ce film japonais, où. L'héroïne est conduite dans un ascenseur, elle est encadrée par trois vigiles, ou je ne me rappelle plus exactement l'histoire, j'invente peut-être le contexte, mais en tout cas, elle est dans l'ascenseur avec trois hommes. Et en fait, tu as un plan sur elle, on voit bien qu'il y a trois personnes autour, on voit par contre derrière l'ascenseur qui monte, bon, ça c'est pas très compliqué à faire en animation. Et peut-être qu'elle lève le sourcil à un moment, elle ouvre la bouche comme ça, mais en gros, l'image elle est immobile. Hein. Et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre et tout d'un coup, tu as un déluge d'action. Alors là, il te faut 24 images secondes parce qu'elle est en train de faire la baston. C'est ça qui est intéressant dans le cinéma, même si moi, je n'ai pas pris de cours de cinéma, donc c'est vraiment pas à moi de poser trop la question, mais ça qui est intéressant. Mais c'est ça que je remarque dans le cinéma japonais, c'est qu'ils n'ont pas peur de faire des pleins et des déliés, tu vois. Un peu de douceur et tout d'un coup, ça bouge et puis après... Voilà, donc t'as pas besoin effectivement d'avoir 24 images par seconde tout le temps. Si jamais ta pose clé elle est très bien et qu'elle est très expressive, les mignons c'est un peu ça d'ailleurs. Pierre Coffin que j'interviewe aussi me le dit. Voilà, j'ai quatre poses clés pour les mignons. Après le truc c'est qu'il faut que quand tu passes d'un mouvement de bouche à un autre, il faut que ça soit cohérent, synchrone, rythmé. C'est souvent pour les mignons. Et pour les films de Pierre Coffin, apportés par l'improvisation du comédien, en fait. Il ne faut pas oublier que... Bon, là, je parle d'un personnage qui parle, mais il ne faut pas oublier que, normalement, dans un film d'animation, les voix sont faites par un comédien, et ce n'est pas du doublage. C'est-à-dire qu'il a un script, il n'a rien d'autre que le script, il n'y a pas d'image qui bouge devant lui, il a éventuellement la tête du personnage, et il crée. Et après, l'animateur va jouer avec... ce travail de comédie extrêmement puissant qu'apporte le comédien pour après faire son animation.
D'accord.
Et du coup, vous parliez tout à l'heure des formations. Donc ici, on a des jeunes passionnés de cinéma, passionnés d'animation qui viennent. Et Jules, peut-être c'est des choses qui t'intéressent aussi.
Pour devenir professionnel, en fait, est-ce qu'il y a forcément besoin d'une formation du coup dans des écoles d'animation en France ou?
Comment est-ce qu'on devient
professionnel de l'animation en France?
Bon, ça serait dommage de ne pas en profiter parce qu'on a parmi les meilleures écoles. Alors, elles ne sont pas toutes données. L'école des Gobelins, c'est très cher. Il y a des écoles moins chères. L'avantage de passer par une école d'animation, c'est que, ben, en fait, il y a deux choses. Les gens qui viennent t'apprendre sont des intervenants qui travaillent dans des studios, ou qui soient même de te repérer. Et malgré tout, c'est toujours bien de partir en connaissant des gens qui peuvent t'aider, etc. Et puis, une école d'animation te permet aussi... Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas une carte de visite, mais bon, bref, il ne faut pas le voir comme une carte de visite. Mais enfin, ton film de fin d'études, ça va être ton premier sésame vers ton premier boulot. Donc, ça serait dommage de ne pas le faire. Maintenant, moi, j'ai découvert un truc avec Sylvain Chomet tout à l'heure. Il a fait la pub pour un logiciel. Apparemment, on peut acheter un truc qui est, dit-il, pas trop cher. Bon, c'est quand même 60 euros, mais apparemment, c'est un truc génial.
Il appelait ça HUE, You Animation Studio.
Voilà, apparemment, c'est un truc, tu t'achètes ça. Effectivement, c'est moins cher qu'une cartouche de jeux vidéo, même prix. Et après, tu peux t'amuser à faire plein de vidéos. Et alors là, pour le coup, tu peux expérimenter, comme tu dis ça, de façon empirique, tout ce que tu veux. Donc, évidemment, c'est toujours mieux. Lui, il y avait une enfant qui lui demandait à la fin, mais vous avez commencé à dessiner à quel âge? 3 ans. Ah, d'accord. Oui, bah oui, il faut quand même savoir. Enfin voilà, pour entrer dans une école de dessin, il y a quand même épreuves. Et puis, il faut aimer dessiner. Oui, avec la 3D, apparemment, on peut faire du dessin animé sans savoir dessiner.
Et puis, Marion Montaigne, apparemment, dit qu'elle-même ne sait pas dessiner. Et pourtant,
oui, il ne faut pas croire ça. Voilà, les faux modèles.
Non, mais en tout cas, y a savoir dessiner, ça ne veut pas forcément dire...
Elle sait dessiner. Moi, j'aimerais bien savoir ne pas dessiner comme Marion Montaigne. Hein.
Non, mais c'était sur l'idée qu'on a un style et qu'on n'est pas forcément tous stéréotypés. Enfin, on ne dessine pas tous de la même manière, quoi. On ne sait pas, voilà.
Elle sait, je pense qu'elle a montré qu'elle savait exprimer des expressions dans ses dessins.
Absolument. Et peut-être pour terminer, là, on est au Festival du premier film d'Annonay. La question du cinéma d'animation, elle apparaît petit à petit dans ce festival. Là, il y avait aujourd'hui cette journée qui était consacrée donc pour les scolaires avec les séances des triplettes de Belleville et puis cette masterclass. Vous avez écrit un livre, vous vous intéressez à ça. J'imagine que vous tournez vous allez de temps en temps dans des festivals. Quelle est votre expérience ici aujourd'hui? Comment vous insérez dans cette idée de festival du premier film?
C'était marrant de voir que le premier, voir le premier que le premier long métrage de Sylvain Chomet, Les Triplettes de Belleville, a fait cette carrière-là. Ça veut dire que en animation aussi, les premiers films, ça ne veut pas dire grand-chose. Il était très inspiré. Le film a fait un parcours incroyable. Il était au Festival de Cannes. Il était nommé aux Oscars. Donc maintenant, c'est cher de fabriquer un premier film en animation. C'est certainement plus cher de fabriquer que de fabriquer un premier film tout court avec une caméra.
En viande, comme disait vos collègues tout à l'heure.
C'est difficile de tenir. Avec des acteurs, vous voulez dire.
Bien sûr.
Mais je pense qu'aujourd'hui, Internet permet à tout à chacun de tester cette technique d'animation. On peut faire des trucs géniaux. Même avec une application sur iPhone, il y a plein d'applications pas très chères qui vous permettent de faire du stop motion. L'autre jour, je me suis retrouvé dans le train par hasard face à Mathias Melzieux de Dionysos, réalisateur de
La mécanique du cœur.
La mécanique du cœur. Et il était en train de me dire... Ah oui, mais moi,
il
est de
Valence aussi, d'ailleurs.
Ah oui, je passe mon temps à faire des petits films avec mon petit iPhone. Là. On peut même faire du stop motion. Il m'a montré deux, trois trucs, c'était incroyable. On peut tous faire des films d'animation. Non, ça c'est... Enfin, le nombre en fait, de films que reçoit chaque année le Festival d'animation d'Annecy, le premier festival d'animation au monde, je crois que ça a décuplé en l'espace de 10 ans parce que l'ordinateur permet tout. Donc c'est génial.
Et puis vous pouvez aussi faire comme Jules et venir au studio Mediapop. Il y a du matériel, il y a de la place, il y a des idées et du coup créer aussi des petits films. On vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Laurent Vallière d'être venu. Merci Jules.
De rien.
Et puis bon festival, à bientôt.
C'est quoi ce cirque ?
Mais c'est le festival.
Quel festival ?
Le Festival international du premier film d'Annonay.
Le Festival international du premier film d'Annonay ?
Mais oui !
Allez, tous en scène !
On y va !
C'est parti !
En piste !